toute la RTBF de recevoir aujourd'hui Alexandre Zinoviev. Jacques de Pierrepont, vous êtes là?
Oui, Alexandre Zinoviev, il est là, il a 56 ans, il est docteur en philosophie, écrivain, il était professeur de logique à Moscou jusqu'en 1976, et il a obtenu récemment un visa de sortie de l'Union soviétique et il s'est installé en Allemagne, à Munich, où il donne des cours à l'invitation de l'Université de Munich. Alors il est maintenant déchu de sa nationalité. Et bon, on l'a dit, on lui doit un livre qui est vraiment touffu, énorme, mordant, paillard, parfois, de 600 pages de courtes séquences qui font le tableau satirique d'un monde futur. C'est Yvan Bourg en l'an 9984. Son titre, Les hauteurs béantes, aux éditions L'Âge de l'Homme. Il faut d'ailleurs préciser que ce livre, Les hauteurs béantes, a paru pour la première fois en russe, mais non pas en Union soviétique, mais en Suisse, donc en Occident, à ses éditions L'Âge de l'Homme, il y a 2 ans. Alors Yves Prémion, je me tourne d'abord un instant vers vous. Vous êtes à l'origine d'une pétition des auteurs de science-fiction français, d'une pétition qui exigeait la possibilité pour Alexandre Zinoviev, alors qu'il était encore en URSS, qui exigeait la possibilité pour Alexandre Zinoviev d'obtenir un visa. Je crois que la plupart des auteurs de science-fiction, disons démocrates, ont signé cette pétition et vous avez lu Les hauteurs béantes jusqu'au bout.
Bon, alors d'abord sur la pétition, je crois que ce n'est pas une chose qui a eu peut-être un grand poids pour obtenir la libération d'Alexandre Zinoviev, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres pressions à des niveaux beaucoup plus importants que le nôtre, mais je crois que c'était peut-être plus important encore de montrer qu'en France, et c'est pas seulement en France, je crois que c'est francophone, puisqu'il y avait également des Belges et des Suisses qui avaient signé cette pétition, de montrer que devant un phénomène de répression ou de censure sur une expression, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit, tous les auteurs, dans le domaine de la science-fiction en tout cas, avaient tous la même position, à savoir que tout le monde doit pouvoir exprimer n'importe quelle idée, n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas seulement les auteurs démocrates qui ont signé cette pétition, mais ce sont les auteurs de toutes origines, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, y compris des auteurs qui sont connus pour être membres du Parti communiste, par exemple. Ça, je trouve que c'est important. Oui, c'est assez rare et c'est significatif de l'importance que prend la liberté d'expression à notre époque, et en particulier dans le domaine de la science-fiction. Alors maintenant, pour parler du livre... Les hauteurs béantes, j'avoue que je suis d'abord très, très embarrassé parce que c'est un tel monument et j'ai l'impression que, je le disais hier soir à un ami qui n'avait pas lu le livre, c'est que dans chaque page, on peut trouver 5 ou 6 citations qui pourraient passer à l'état de proverbe, à l'état d'expression définitive. Et c'est un monument aussi dans la mesure où je crois que c'est un des plus extraordinaires livres de science-fiction jamais écrits. Et ce qui est prodigieux, c'est que ce n'est pas du tout un écrivain de science-fiction qui l'a écrit. Nous avions déjà eu cela avec Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, avec 1984 de Orwell et un certain nombre de livres de cet ordre. Et je crois d'ailleurs que peut-être un auteur de science-fiction n'aurait pas pu tout à fait écrire ce livre, ce qui fait la force du livre, ce n'est pas son argumentation de science-fiction qui n'est là peut-être que comme un prétexte. C'est avant tout, je crois que sa profonde originalité vient de ce que Alexandre Zinoviev part de sa propre expérience, à savoir, il fait une description, disons pour simplifier, d'un monde bureaucratique, d'un pays de l'Est dans toute sa splendeur, si vous voulez, mais que pour quelqu'un qui est occidental, il a l'impression aussi que d'une certaine façon, on décrit soit un présent qui lui est familier ou un futur qu'il pressent déjà.
Pour l'Occident.
Oui, pour l'Occident. Et je crois que c'est une des idées fortes d'Alexandre Zinoviev, et il le répète souvent depuis qu'il est en Occident. C'est qu'il y a de moins en moins de différences entre les sociétés de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Et je crois qu'il y a très très peu de livres, même dans ce qu'il est convenu d'appeler les dissidents des pays de l'Est, qui justement ont une force qui dépasse le cadre simple de leur propre société. Je connais quelques exemples, j'aimerais pouvoir citer un autre livre, moins considérable par son épaisseur et qui n'est pas un livre de science-fiction, qui est « En Pologne, c'est-à-dire nulle part » de Kazimierz Brandis, qui est un Polonais, et qui a aussi cette force dans la description, qui le rend le livre universel et peut-être au-delà de la simple idéologie plate.
Voilà, Léauteur Béante, une critique d'Yves Frémillon, qui est écrivain français, mais aussi critique littéraire de profession. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, on parlait de citations. Bon, j'en ai commencé la lecture, et j'ai commencé à noter toutes ces phrases, tous ces paragraphes qui pouvaient servir de proverbes, et j'ai très vite renoncé parce que les feuilles s'accumulaient. Voilà, Alexandre Zinoviev, merci à vous d'avoir accepté de venir à ce micro. Madame Osterat, merci à vous aussi de bien vouloir assurer la traduction du russe en français. Alors, bon, Alexandre Zinoviev, première question, est-ce que vous pourriez retracer l'itinéraire de vos ennuis avec les autorités soviétiques? Bon, je pense que ces ennuis ne datent pas d'hier.
En deux mots,
je n'avais pas eu de conflit direct avec le gouvernement. C'était vraiment dans la société que je me sentais emprisonnée. C'est un conflit beaucoup plus grave, plus profond. C'est depuis l'enfance que ça a commencé. Ça a continué jusqu'à maintenant.
Et
sa fin logique était le fait de mon expulsion. Mon livre Les hauteurs béantes, c'est vraiment le récit de ce conflit. Et toutes les difficultés que j'ai eues ces derniers temps, ce n'est rien dans l'histoire de ma vie.
La parution des hauteurs béantes en russe et en suisse, que vous avez été exclu de l'université, privé de votre emploi, privé de vos titres, de vos décorations et même exclu du parti communiste dont vous étiez membre.
Je me suis trouvé très isolé déjà très longtemps avant l'apparition de mon livre. Au début des années 70, j'ai perdu toute possibilité de travailler à l'université
et
toute possibilité de publier mes livres en Union soviétique. De cette façon, j'ai eu le temps libre pour m'adonner à un travail de fiction, un travail littéraire.
Voilà, donc les hauteurs béantes. Alors, Alexandre Zinoviev, vous n'avez pas, au regard de la loi soviétique, commis un délit. Vous n'êtes pas un criminel au sens juridique du terme.
Non, aucun délit juridique ne peut m'être imputé. Mais je fais quelque chose de plus grave, de plus grand. Je me suis insurgé contre la société entière. Ça, c'est un crime social. Et ce crime social, on ne le pardonne pas.
Comment se dit-il que vous ayez été expulsé? Je veux dire, on vous a refusé votre visa de sortie pendant un certain temps, puis on vous l'a accordé, et puis on vous a déchu de votre nationalité. On parle pour beaucoup de dissidents, d'hôpitaux psychiatriques, de camps d'internement. Ce n'est pas votre cas. Comment expliquez-vous, la mansuétude de la mesure, si j'ose dire?
On ne peut pas donner une explication bien concrète, car toutes les actions de l'État sont secrètes, évidemment. Ce n'est même pas nécessaire de chipoter dans ces histoires.
Mais
le gouvernement avait décidé qu'il était plus avantageux, pour une raison ou l'autre, de me faire sortir plutôt que de m'enfermer quelque part. Mais je pense que la peine que je subis maintenant du fait de mon expulsion, je pense que ce n'est pas encore terminé. Je considère mon expulsion comme un bagne, en somme. Car la privation de mes droits civils a certainement dû être prise bien avant mon départ.
Vous considérez comme un dissident. Le dissident, c'est le mot, c'est le qualificatif qu'on emploie le plus en Occident pour désigner les contestataires soviétiques.
Non, je ne me considère pas comme un dissident. Je me considère comme un homme qui me suis mis en dehors de cette société et ne prenant aucune part dans ce jeu, dans ces règles de jeu que je n'estime pas. J'observe cette société et je décris ce que je vois. C'est tout.
Vous n'êtes donc pas engagé dans un courant d'opposition précis?
Non, absolument pas. Je suis vraiment un homme seul. Ça correspond à mon état d'âme, à mes conceptions, à mon caractère.
Préférez-vous le terme d'indépendant?
J'étais toujours indépendant et je le serai, j'espère.
Bien, votre livre, Les hauteurs béantes, est un peu le résultat de cette observation de la réalité dans laquelle vous viviez. C'est un constat, mais un constat où on n'a pas l'impression que les gens qui vivent sont malheureux. Bon, on dit souvent en Occident, en Union soviétique, il n'y a pas de liberté individuelle, on gagne moins d'argent. Est-ce que ce n'est pas plus subtil que ça? Enfin, c'est l'impression qu'on en a quand on lit votre livre. Peut-on parler d'une dictature?
Il y a deux conceptions de bonheur. On peut rendre les gens heureux en les piquant, en leur faisant des piqûres. On peut inventer un médicament et ces gens vont se sentir heureux. Mais alors, il y a un critère bien humain du bonheur qui est le résultat de tout, des siècles de civilisation et des recherches. Les gens peuvent se sentir heureux alors qu'ils vivent comme des bétails, en étant malheureux au point de vue des critères matériels, peut-être.
Vous expliquez par exemple que les mouvements d'opposition, de contestation intellectuelle en URSS soient si minoritaires, n'aient pas plus d'impact en URSS même sur la population.
Non, la chose est que le peu d'opposition s'explique par plusieurs raisons. Je veux seulement insister sur un seul aspect de la chose. Nous sommes au début de l'opposition
originelle.
Elle ne fait que naître actuellement. Et le fait même qu'elle soit née, c'est déjà un résultat extraordinaire au point de vue historique, de l'évolution historique. Je considère que l'apparition des dissidents en
URSS,
c'est un résultat le plus frappant de l'histoire soviétique elle-même. C'est un résultat considérablement plus important que de vol dans le cosmos, que la bombe atomique. C'est un résultat purement humain. D'une technique, d'une nature morte.
Bien, Alexandre Zinoviev, le titre de votre livre, Les hauteurs béantes, quelle en est sa signification?
Je
veux souligner le paradoxe du vécu en Union soviétique. D'un côté, on promet aux gens le paradis, et en fait, on organise un enfer.
Très vite. C'est assez étonnant vu l'ampleur de la tâche.
Non, dans ma tête, c'est un livre que je conçus il y a très très longtemps, toute ma vie. Mais sur le papier, je l'ai mis en 6 mois. C'était vraiment dans un état de que je ne peux pas comprendre. C'est une chose que je devais absolument faire.
Est-ce qu'on peut qualifier l'auteur béante de roman?
Non, certainement. Je ne suis pas un écrivain professionnel. Je considère que c'est un genre à part. Et je l'aurais appelé ce genre le cri de l'âme humaine. Et comme un écrivain qui n'est pas professionnel, j'ai utilisé vraiment tous les moyens possibles dans ce genre, sans tenir compte d'aucune forme littéraire existante, enfin, si elle existe, mais enfin, oui. Mais j'ai utilisé donc également, évidemment, les formes du roman, romanesque, et également de la science-fiction.
Le but de ce livre, c'est un peu d'essayer de discerner la logique des rapports sociaux en URSS. Comment fonctionne le système? Quels sont les rouages de la bureaucratie? Comment il doit arriver? Et quelles sont vos conclusions?
Oui, dans ce livre, j'ai exposé les résultats de mes nombreuses observations, recherches sur une société communiste. J'ai voulu dire au genre humain ce qu'est le communisme, montrer, faire apparaître ses lois qui n'ont rien à voir avec ce que les théoriciens peuvent promettre ou pas, dire aux gens qu'ils ne se fassent pas d'illusions, qu'ils soient prêts à lutter pour un avenir meilleur, mais ne rien attendre de leur chef étatique. Je voulais dire à l'homme que tout dépend de lui. Si tu ne veux pas résister, si tu ne veux pas lutter, l'humanité va sombrer dans un état semblable à celui d'une fourmilière.
Frémion notait que pour un occidental qui lit les hauteurs béantes, bien des choses dans les hauteurs béantes peuvent s'appliquer à l'Occident, à notre réalité à nous. Qu'en pensez-vous?
Je n'ai pas écrit seulement en pensant à l'Union soviétique, évidemment, mais c'était à la société en général. Mais pour moi, la société soviétique était une matière première extrêmement fertile à ce point de vue. C'est une matière première que je connaissais et qui me donnait beaucoup. Tous les mécanismes de la vie humaine là-bas m'ont apparu avec une évidence absolument formelle. Et je suis convaincue que mes conclusions ont certainement une signification également très importante pour l'Occident, puisqu'elles sont humaines, mes conclusions. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi une forme aussi abstraite. J'ai vraiment inventé ces allégories, ces personnages abstraits et un pays soi-disant abstrait.
On remarque à la lecture du livre, bon, d'abord il n'y a pas de chapitre, c'est une succession de courtes séquences, et puis ensuite il n'y a pas de personnages nommés. il y a des masques, il y a des noms abstraits, il y a le numéro 1, le bavard, le schizophrène, le collaborateur, le prétendant, le barbouilleur, l'académicien, le panicard, le déviationniste, double jeu, bien d'autres types. Alors pourquoi cet anonymat ?
J'explique donc la façon dont je procédais. Mes personnages anonymes, mes héros, ne sont pas des personnages vraiment concrets, mais elles représentent les lois même d'une société. Ils incarnent ces lois. Et cela m'est égal dans quel personnage que ces lois s'incarnent. C'est secondaire pour moi. Ce qui concerne le fait que mon œuvre soit si fragmentaire, c'est évidemment les conditions dans lesquelles j'ai dû la créer qui l'expliquent. J'ai écrit dans des conditions très difficiles sur lesquelles je n'aime pas de m'étendre plus loin. Mais j'ai obtenu l'unité de ma conception en développant donc mes idées jusqu'au bout.
Bien, ces personnages correspondent donc à, non pas à des personnages précis, mais à des types de comportements, mais vous vous êtes basé quand même sur votre réalité personnelle. Le barbouilleur, par exemple, qui est-il ?
Évidemment. Je me suis appuyée sur des personnages, sur des individus bien concrets. Mais je ne les ai pas décrits de façon concrète. J'ai essayé de créer des personnages abstraits, généraux. Ce sont des types que j'ai essayé de décrire. Et des situations types. Et je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de trouver la clé, de rechercher qui c'est tel ou tel personnage. C'est évidemment curieux. Mais pour comprendre la conception de mon œuvre, il vaut mieux ne pas déchiffrer.
Bien, alors, le schizophrène, donc ce n'est pas quelqu'un, c'est le schizophrène. C'est un peu l'écrivain du livre et c'est la personne qui est lucide. Alors pourquoi est-ce un schizophrène qui est lucide ?
Le personnage, je l'ai appelé schizophrène
parce
qu'une des méthodes de lutte contre les pensants autrement, les dissidents, c'est la maison de psychiatrique, évidemment.
Et
parce qu'en Union soviétique,
les
gens les plus profonds et les pensées les plus saines et les plus profondes sur la société sont considérées comme des folies.
Il y a un autre personnage, bon, je m'excuse un peu de vous poser des questions par bribes et morceaux, mais j'essaie un peu de suivre le schéma du livre. Double jeu, c'est un personnage qui s'appelle Double jeu, déclare ceci. Le père la justice a accompli une œuvre immense, peut-être la plus importante du genre de toute l'histoire ivanienne, donc nous sommes à Ivanbourg, donc rappelons-le, mais son programme positif est risible, et quant à son personnage de pasteur, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas très luisant. Donc le personnage perd la justice, son personnage de pasteur n'est pas très
religieux. Как будто бы глушник это сказал ваше. Да, и это, конечно, поняли, что это тоже митинг, критика ли это тоже
митинг? Нет, конечно. Дело в том, что мои персонажи высказывают самые различные точки зрения.
Мои персонажи, évidemment, expriment des points de leurs opinions et des opinions plus contradictoires. Ils discutent entre eux. Ils se contredisent les autres. Et c'est ça qui reflète la réalité d'une société. Il n'y a pas d'unicité de pensée, ni de vue.
Вот. А что касается,
en ce qui concerne
вообще,
en général
того,
ce que disent mes personnages, je voudrais bien insister, vous mettre en garde.
Дело в том, что в книге есть один персонаж всего.
Il y a un personnage qui résume tout.
Et этот персонаж я
сам. C'est l'auteur, c'est moi.
Моё собственное сознание.
C'est ma propre conscience.
Et я содержание своего сознания распределяю.
Et le contenu de ma conscience, je la fragmente à des personnages divers, évidemment, multiples.
Повторяю, это книга крик души своего рода исповедь.
C'est le cri de mon âme, c'est comme une espèce de acte de foi.
Необычную.
Et ça, sous une forme qui m'est propre, une forme littéraire ici.
Ne pas essayer en lisant les hauteurs béantes de savoir qui est qui se cache derrière le masque, mais le lire comme une sorte de logique d'une société.
Non, je considère qu'un lecteur ne le conseillerait pas de rechercher la clé. Évidemment, les historiens de la littérature, etc., ça c'est leur droit, c'est leur profession.
Bien. Pourquoi avoir utilisé la science-fiction?
C'est une question très intéressante.
Дело в том, что я, как я думаю, я ввел в литературу
je pense que j'ai
научный стиль образного
dans
мышления.
La littérature un mode scientifique de pensée.
А чтобы этот стиль научного мышления
et pour
реализовать
que de,
как
литературу, scientifique
как
pour la rendre
littéraire,
c'est la science-fiction évidemment qui était le moyen, le seul moyen. C'est un moyen adéquat pour exprimer ce que je voulais dire. Il est venu de lui-même, il s'est imposé de lui-même. Dès le début, dès que j'ai pris ma plume, ce moyen s'est imposé à moi. Sans aucun effort.
Bon, je dirais la science-fiction n'est pas neutre, que ce soit en Occident, que ce soit pour la science-fiction de l'Union soviétique. La science-fiction reflète souvent une idéologie bien particulière. Vous avez parlé dans la conférence que vous avez donnée ici, à la 4e convention de science-fiction et de fantastique, 4e convention européenne, vous avez parlé d'une science-fiction faite de balivernes. La conquête du cosmos, par exemple.
La science-fiction comme genre littéraire, c'est un moyen extrêmement puissant, très moderne. C'est vraiment une tendance littéraire la plus forte actuellement. Mais lorsque je dis qu'il y a beaucoup de balivernes là-dedans, j'ai surtout pensé à la paralittérature, à ce genre qui prétend être une littérature de fiction scientifique, mais en fait ne l'est pas.
En somme, on se sert de la science pour dire à peu près n'importe quoi.
C'est une littérature qui exploite à 90% la science, tout simplement.
Ce que vous entendez par science-fiction, c'est autre chose à ce moment-là.
Pour moi, la science-fiction, c'est une forme littéraire dans laquelle on peut exprimer les résultats d'une pensée scientifique, de recherche scientifique, mais quand même selon les lois de la littérature, selon les lois littéraires, évidemment.
Vous avez aussi cité dans votre conférence un proverbe local, dites-vous, russe, « Si tu n'inventes pas, tu ne seras pas cru ». Est-ce cela la science-fiction ?
Чтобы сказать правду,
pour dire la vérité,
правду, надо еще суметь это.
Je crois qu'il faut savoir encore le faire d'une certaine façon. Il faut créer une forme adéquate. Et pour cela, il faut inventer, c'est-à-dire créer évidemment quelque chose. Je pense que j'ai inventé IBAN de façon assez réussie. De façon assez réussie pour pouvoir expliquer ce qu'est en réalité le communisme.
IBAN, traduction en français. Yvan Bourg, Alexandre Zinoviev, une dernière question. Je dirais que votre livre se termine mal, il se termine par la disparition volontaire de la plupart des personnages mis en scène. Il n'y a vraiment pas d'issue, alors êtes-vous pessimiste?
Je ne suis pas du tout pessimiste. Je me sens dans cette situation. Par exemple, il y a la guerre, il y a un front. Votre groupe est entouré, vous nous entourez. L'ennemi est plus fort que vous. Vous êtes condamné d'avance, vous devez disparaître.
Et
dans ce cas-là, il n'y a que deux positions. Il n'y a qu'une alternative. La position d'un trouillard, se rendre, ou bien la position d'un homme et se battre jusqu'au bout. J'exprime cette dernière.
Позиция в двух словах такова. Положение смертельно опасно.
La position est mortellement dangereuse.
И поэтому давайте сражаться.
Et donc,
отступать
il
некуда.
Faut lutter, on n'a pas à reculer.
Мы отступили до самых основ человеческого
бытия. Nous avons déjà reculé jusque vraiment aux racines de notre existence.
За нами только пропасть.
Et après, il n'y a plus que le néant, les hauteurs béantes ou le précipice béant. Ce n'est pas un pessimisme. Mais c'est l'optimisme vraiment le plus actif, le plus élevé qui soit.
Vous avez écrit aussi dans les hauteurs béantes que le degré de civilisation réelle d'une société se mesure au degré de vérité qu'elle laisse dire à ses membres. Ce mot vérité, c'est important.
Oui, je voulais dire par cela que maintenant, la vérité sur la société, sur le communisme, est une condition de notre salut et du progrès de la civilisation tout entière. Mais une vérité nue, sans aucune illusion, sans ornement. La société est malade. Et les gens doivent savoir pourquoi et de quoi il est malade.
Est-ce que les pays d'Est sont malades ou bien est-ce que le monde entier est malade?
Это только на Востоке, Je pense que cela concerne l'homme en général. Le communisme en Union soviétique, c'est un fait évidemment international.
Voilà, Alexandre. Oui, Trémion,
terminer. Le livre d'Alexandre Zinoviev est un livre extrêmement drôle et que c'est une dimension dont il fallait absolument faire part avant de se quitter.
Voilà, Alexandre Zinoviev dans Demain la veille.